Merci pour ce journal de campagne. J'accueille à présent Nathalie Arthaud, la candidate de Lutte ouvrière. Bonsoir, merci Bonsoir. Beaucoup d'être sur le plateau de BFM TV. On va évoquer votre programme de lutte, pas un programme électoral, j'ai bien remarqué. Mais on va commencer par quelques questions d'actualité, si vous le voulez bien. La centrale nucléaire de Penly a apparemment eu une fuite. Il semblerait qu'elle soit endiguée à cette heure-ci, qu'elle soit colmatée. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est un incident grave qui mérite de remettre en question la question du nucléaire au centre de la campagne, ou que c'est un incident, après tout, qui est déjà réglé et qui montre que la filière nucléaire fonctionne correctement?
Moi, je crois que tous les incidents, y compris les plus minimes, dans le nucléaire, sont forcément des incidents qui peuvent devenir graves. Donc, il faut évidemment pas les prendre à la légère. Moi, je crois que dans les centrales nucléaires, dans cette filière, évidemment, très dangereuse, il faut absolument qu'il y ait un contrôle d'exercer sur les travailleurs, sur la population, sur les riverains, sur ce qui se passe dans la centrale. Qu'ils aient au moins les garanties que toutes les mesures de sécurité sont prises et qu'on ne fait pas d'économie. Et moi, ce qui me choque, dans toutes ces centrales gérées par EDF, c'est qu'on a recours systématiquement à la sous-traitance, à l'intérim. Et on sait très bien quand même que quand on travaille en sous-traitance, c'est la meilleure façon de perdre le contrôle d'un processus de production. Et ben vous voyez, en réalité, ces entreprises, elles fonctionnent comme les autres, avec toujours le souci de faire des économies, de faire des profits, d'aligner des comptes qui soient bons. Alors voilà, moi, c'est cela que je remets en cause. Je pense que dans ce secteur-là, la première chose, l'urgence à faire, ce serait effectivement que ça devienne des services publics et qu'on les gère, encore une fois, sous le contrôle vraiment de des travailleurs qui pourraient alerter.
Vous êtes d'accord avec Nicolas Dupont-Aignan qui veut renationaliser complètement EDF et sortir complètement la filière nucléaire des aléas du marché éventuel?
Le problème, c'est qu'il faut les sortir des aléas du marché, mais même de cette recherche du profit. C'est ça qu'il faudrait faire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une économie où tout ce qui est fait, tout, mais même fabriquer des médicaments.
Et vous êtes prof d'économie. Et prof d'économie et de gestion.
Oui. Mais vous savez, même quand on... Voilà, moi, ce qui me choque dans cette société, c'est que même quand on est un fabricant de médicaments, qu'on est censé faire le bien, soigner, eh bien, on fabrique d'abord et avant tout des profits. Et parfois, ça amène à mettre sur le marché, y compris des médicaments qui ne soignent pas, mais qui tuent. Je pense au Mediator, je pense aux prothèses mammaires, par exemple. Donc, vous voyez, on est dans une économie où, effectivement, eh bien, les capitalistes se transforment en apprentis sorciers, bien trop souvent. C'est le cas de Total aussi, dans la mer du Nord. Donc, nous disons que ces grands groupes, et surtout, évidemment, à commencer par ceux qui comportent un danger pour la société, l'environnement, devraient effectivement être expropriés et être propriété collective, être gérés collectivement, démocratiquement, avec un contrôle évidemment de ceux qui font tourner les entreprises.
Il y aurait la compétence nécessaire pour le faire.
Elle est là, la compétence nécessaire. Et ce qui est fou dans ce système, c'est que, y compris ces compétences-là, elles sont gâchées bien souvent parce que elles sont mises au service d'une seule et même politique. Il faut toujours faire de l'argent le plus vite possible en faisant tout et n'importe quoi.
Alors, autre question avant de passer à votre campagne. Le congrès de l'UOIF s'ouvre ce soir, l'Union des organisations islamiques de France. Le gouvernement a mis en garde contre les débordements parce qu'apparemment il y avait des prêcheurs islamistes radicaux qu'on a interdits de séjour en France qui avaient des discours clairement antisémites ou anti-féministes ou en même violant les droits des femmes. Quel est votre sentiment? C'était normal de mettre en garde cette organisation?
Moi, je vois surtout l'hypocrisie qu'il y a de la part du gouvernement, de la part de Nicolas Sarkozy, qui a quand même soutenu l'UOIF, qui s'est rendu à son congrès, je crois que c'était l'année dernière d'ailleurs.
Non, quand il était ministre de l'Intérieur.
Quand il était ministre de l'Intérieur,
il y a plusieurs années.
Il est allé, il a pris la parole, etc. Bon, je vois aussi que ses amis du Qatar... L'émir du Qatar, le roi d'Arabie Saoudite, qui ne sont quand même pas des grands progressistes et qui, au contraire, font appliquer
une législation
moyenâgeuse, je dirais, avec en cautionnant la lapidation, etc. Ce sont ses amis. Alors moi, voilà, je veux dénoncer l'hypocrisie de ce gouvernement qui prétend lutter contre les réactionnaires salafistes et qui, en réalité, quand il s'agit d'émirs et de rois qui peuvent apporter un peu de pétrole et un peu d'argent, eh bien, ils s'entendent tout à fait bien. Voilà. Alors moi, ça me choque.
Les droits des femmes, c'est une cause qui vous tient à cœur. C'est vrai que Lutte ouvrière a eu une femme candidate. Avant vous, c'était Arlette Laguiller. Aujourd'hui, c'est vous. Et vous avez fait un peu sensation hier au forum de Elle en disant qu'il fallait peut-être envoyer en prison les patrons qui ne respecteraient pas l'égalité homme-femme dans les entreprises. Mais on a eu l'impression que vous avez un peu improvisé cette mesure, que vous avez pensé comme ça et vous l'avez lancée.
Oui, je dois c'est dire, bah, disons que non, c'est je suis pour, absolument pour.
Pour les envoyer en prison.
De façon générale, je suis pour que quand on ne respecte pas la loi, quand on vole effectivement, là en l'occurrence 200, 300 euros sur un salaire hein, parce qu'on est une femme, on ne paye, le patron quand il ne paye pas ce qu'il faut, c'est un vol. Quand il le fait de façon répétée, eh bien c'est un vol qui est répété, c'est un délinquant récidiviste. Et moi je ne vois pas pourquoi on traite si durement, hein, de façon si coercitive les petits délinquants récidivistes hein, à qui on qu'on menace et parfois qu'on envoie en prison, pourquoi traite-t-on autrement les patrons? Voilà, moi je ne vois pas le problème. Vous voyez, ça a fait effectivement, vous dites, réagir, beaucoup de réactions. Bah, c'est révélateur quand même de la société dans laquelle on est. Hein, c'est que ces patrons, ils sont intouchables. Voilà. Ils peuvent s'asseoir sur les lois, ne pas les respecter, ne pas payer les heures supplémentaires, ne pas respecter, mettre en cause la santé de leurs travailleurs.
Le monde n'est pas un petit peu...
Ils sont intouchables.
Le monde n'est pas partagé pour vous entre les méchants et les gentils, entre ceux qui sont parfaits et puis ceux qui, au contraire, ont tous les défauts. Et ça m'étonne presque, une professeure d'économie, c'est bien plus complexe.
Voyez,
et l'économie et la vie, non?
C'est un petit peu vous qui, finalement, séparez le monde en deux. Pourquoi? Parce qu'on a une cravate, un costume, et puis parce qu'on est grand patron d'une grande entreprise, on n'aurait pas des comptes à rendre à la société quand on viole la loi. Moi, je suis choquée de ce qui se passe vis-à-vis de la catastrophe de l'Erika. Je suis choquée de voir que IKEA a espionné ses salariés, a espionné ses clients même. Je suis choquée de ce qui s'est passé avec les banquiers. Moi, ça m'a révoltée de voir que les banquiers ont été, c'est eux qui ont été les responsables de cette crise parce qu'ils ont transformé leur salle de banque en salle de casino. Tout le monde d'ailleurs a dit, les dirigeants politiques, Nicolas Sarkozy aussi avait dit en son temps qu'il leur demanderait des comptes. Eh bien finalement, personne ne leur a demandé des comptes, personne ne les a traînés devant les tribunaux et effectivement leur a demandé de payer pour les dégâts qu'ils ont faits. Ça a été le contraire. Alors moi, je pense qu'il faudrait réagir avec tous les patrons, oui, qui violent la loi et qui sont quand même responsables de méfaits sociaux, hein, de crimes sociaux. Eh bien, il faudrait les traîner en justice. Et puis, moi, je pense même plus loin. Je pense qu'il faudrait en réalité les exproprier. Les patrons de tous ces grands groupes qui ne les font fonctionner, encore une fois, que pour la rentabilité, que pour l'argent, que pour servir une minorité hein, de grands actionnaires, il faudrait les exproprier de façon qu'enfin, que ces grandes entreprises, elles servent vraiment pour répondre aux besoins de toute la population.
Alors avec ce discours si radical, si absolu, vous stagnez quand même à peu près moins de 0,5% dans nos sondages. Et Jean-Luc Mélenchon ramasse la mise. Il est à 15% dans notre sondage, la course CSA 2012. En quoi vous justifiez votre candidature? À quoi sert-elle dans le fond? Est-ce qu'on a vraiment besoin de votre candidature par rapport à Jean-Luc Mélenchon?
Bah écoutez, vous peut-être pas. Vous peut-être pas. Mais pourquoi devrais-je justifier ma candidature? À partir du moment où il y a un courant, aussi minime soit-il, qui a envie de s'exprimer, de prendre la parole, de dire, oui, nous, cette société capitaliste, on pense qu'elle est à changer de fond en comble et qu'il faut pas accepter, hein, ces schémas-là, hein, forcément, il faut faire beaucoup de profits, forcément, il faut que les actionnaires soient payés, rubis sur ongles, forcément, il faut que les banquiers, ne soient pas gênés en rien. Voilà, nous voulons porter cette voix, d'un changement radical de la société parce qu'on pense que, voilà, cette économie, elle est complètement folle. Et cette voix-là, nous la portons, pas Jean-Luc Mélenchon, vous voyez. Jean-Luc Mélenchon n'est pas communiste révolutionnaire. Nous pensons que la société capitaliste, elle a fait son temps, voilà. Pas Jean-Luc Mélenchon.
J'ai entendu que Martine Aubry avait dit, pourquoi pas des ministres communistes dans un prochain gouvernement présidé par François Hollande. Ça, c'est une bonne nouvelle pour vous?
Alors, quand on parle de ministres communistes, là, elle parlait de ministres du Parti communiste.
Absolument, mais voilà. Ils sont dans le front de gauche avec Jean-Luc Mélenchon.
Voilà, le Parti communiste, depuis longtemps, s'est intégré, en fait, hein, au système de la bourgeoisie et finalement au système politique. Hein, et puis, il a accepté de gérer, dans différents gouvernements, les affaires, les affaires de la bourgeoisie. Il a accepté déjà depuis 81, depuis Mitterrand. Donc, cette politique-là, c'est effectivement sa politique. C'est la politique portée par Jean-Luc Mélenchon qui consiste à dire aux travailleurs que, il faut encore une fois s'en remettre à un gouvernement de gauche, qu'il faut espérer dans ce gouvernement et que c'est lui qui fera
à d'autres
places.
Vous n'avez aucune confiance en Jean-Luc Mélenchon s'il était ministre, par exemple?
Non, je n'ai aucune confiance. Il a déjà été ministre.
Oui,
il a déjà été ministre. Il a beaucoup aimé, paraît-il, quand il était ministre. politique de Jospin. Et nous, nous n'avons pas du tout aimé la politique de Jospin, vous voyez.
C'est une faiblesse politique... d'agir, c'est une faiblesse d'agir, d'intervenir sur le cours des choses, au lieu de parler, au lieu de... d'être dans l'incantation.
Bah écoutez, est-ce que vous avez l'impression que ceux qui sont au pouvoir agissent beaucoup ? Est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont beaucoup de leviers pour agir ? Vous savez, Nicolas Sarkozy avait promis 5% de chômage. On est à près de 10% parce que ses amis, les capitalistes, eux, ils ont une autre politique. Ça a été la politique de licencier à tour de bras dès que la crise a éclaté. Donc, vous voyez, la réalité, c'est que ceux qui font la politique, ceux qui décident des retraites, des salaires,
ils
des embauches, du chômage, c'est ces grands groupes industriels. C'est ces grands groupes, effectivement, du CAC 40 qui dominent toute l'économie. Et eux, ils ont une politique, je vous garantis. Les marchés financiers, ils ont une politique. Ils les imposent aux dirigeants de gauche. Et de droite.
Comment réagissent vos élèves, les parents de vos élèves? Je sais pas, est-ce que vous avez des réactions, des relations avec eux depuis que vous avez commencé la campagne?
Je crois que là, j'en saurai plus quand je retournerai effectivement au lycée, c'est-à-dire après les vacances de Pâques. Après les vacances de Pâques, parce que là, ils ont, je crois, bien compris, effectivement, que j'étais candidate à l'élection présidentielle. Jusqu'à présent, c'était moins clair.
On vous a vu sur les plateaux.
On me voyait moins, voilà. Mais je crois qu'il y a beaucoup de fierté et qu'il y a du respect. Et je suis convaincue qu'ils me feront bon accueil quand je retournerai les voir.
Vous retournez donc en cours après les vacances de Pâques, après le premier tour.
À moins que je sois élue, évidemment.
Évidemment.
Ce qu'on ne peut pas exclure.
Vous le dites en souriant. Merci d'être venu sur notre plateau.
Merci.
Merci. Restez avec nous. À 19h, on va se retrouver. Et mon invité sera un banquier, Mathieu Pigas. Il a écrit Révolution. C'est plomb.